pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue. Il fallait s'y attendre, les États-Unis de Donald Trump se retirent de l'accord de Paris sur le climat. Accord qui prévoit de limiter la hausse des températures à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Alors quel avenir pour ce texte historique, rempart contre les effets que l'on sait dévastateurs du réchauffement climatique? Et comment la résistance s'organise-t-elle dans le monde et au sein même des États-Unis qui sont, derrière la Chine, rappelons-le, le deuxième plus gros pollueur de la planète? Stupeur, sidération, colère, le climato-sceptique Donald Trump a encore réussi à faire parler de lui.
In order to fulfill my solemn duty.
Afin de remplir mon devoir sacré de protéger l'Amérique et ses citoyens, les États-Unis se retireront de l'accord de Paris sur le climat, mais commenceront des négociations pour rejoindre soit cet accord, soit un accord complètement nouveau qui sera plus juste pour les États-Unis. Donc nous nous retirons, mais nous allons commencer à négocier. Et nous allons voir si nous arriverons à un accord plus juste. Si nous y arrivons, c'est bien. Si nous n'y arrivons pas, c'est bien aussi.
Je respecte cette décision souveraine. Mais je la regrette.
Le président français Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir.
Je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple et une faute pour l'avenir de notre planète. Nous ne renégocierons pas un accord moins ambitieux, en aucun cas. La France ce soir appelle l'ensemble des pays signataires à demeurer dans le cadre de l'accord de Paris.
Et d'autres réactions internationales ne se sont pas faites attendre, notamment celle du ministre indien de l'Environnement Harsh Vardhan ou encore de la chancelière allemande Angela Merkel.
La décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris est extrêmement regrettable et je pourrais utiliser des mots beaucoup plus durs. C'est pourquoi il est nécessaire, après cette annonce, de nous concentrer sur le futur. Sa décision ne doit pas et ne va pas nous dissuader, nous, qui nous sentons attachés à la protection de notre planète.
Nous sommes engagés à faire de notre mieux pour lutter contre les problèmes liés au réchauffement climatique.
Malgré cette indignation unanime, Donald Trump reste droit dans ses bottes.
Alors que l'accord actuel empêche le développement du charbon propre en Amérique, l'Inde est autorisée à doubler sa production de charbon d'ici 2020. Pensez-y, l'Inde peut doubler sa production de charbon. Nous, nous devrions nous débarrasser de la nôtre. En tant que président, je ne peux placer aucune considération plus haute que le bien-être des citoyens américains. L'accord de Paris sur le climat est tout simplement le dernier exemple de Washington qui joue un accord désavantageux pour les États-Unis pour le seul bénéfice d'autres pays.
Et pourtant, le président américain fait face à des critiques au sein même de son pays, notamment de la part de l'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger.
Un seul homme ne peut pas détruire tous nos progrès. Un seul homme ne peut pas stopper notre révolution vers les énergies renouvelables. Un seul homme ne peut pas revenir en arrière dans le temps. Mon message pour vous, Monsieur le Président, est qu'en tant que serviteur de la nation, votre première et plus importante responsabilité est de protéger les citoyens. 200 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis à cause de la pollution de l'air. La moitié de nos cours d'eau sont trop pollués pour notre santé. Nous ne pouvons pas juste nous asseoir et ne rien faire pendant que des gens sont malades et meurent. Tout particulièrement quand vous savez qu'il y a une alternative.
Bonjour Lucille Dufour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des questions de négociations internationales et de développement au sein du réseau Action Climat. Mireille Chiroleux-Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes quant à vous professeur d'économie de l'environnement au sein de l'École d'économie de Paris et de l'Université Panthéon-Sorbonne. Et bonjour Fanny Petitbon.
Bonjour.
Vous êtes responsable plaidoyer pour l'ONG Care France. Alors c'était l'une de ses promesses de campagne, mais comment Donald Trump justifie-t-il sa décision de quitter l'accord de Paris ?
Il la justifie avec des raisons économiques qui, au fond, n'ont aucune validité. C'est-à-dire qu'il veut, il affirme vouloir soutenir le secteur du charbon. Celui-ci est en difficulté depuis déjà de nombreuses années pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'accord de Paris, mais tout simplement d'autres énergies sont devenues plus rentables et plus accessibles aux États-Unis, comme le gaz naturel, par exemple. Et l'une des meilleures preuves, hein, c'est que les acteurs du secteur pétrolier étaient tout à fait en faveur de l'accord de Paris.
Donc sauver les emplois américains, c'est ça l'idée de Donald Trump avec cette décision, Lucille Dufour ?
Oui, c'est un petit peu ce qui a été annoncé pendant le discours de Donald Trump. Maintenant, la décision qui a été prise la semaine dernière, c'est une décision qui est assez irresponsable. D'abord parce qu'elle nie la réalité du changement climatique et de ses impacts, qui sont de plus en plus violents et fréquents. Pour la population du monde entier, mais aussi pour les citoyens américains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dynamique de transition énergétique aux États-Unis, elle est déjà en cours. Aujourd'hui, les secteurs de l'éolien et du solaire, ils créent 12 fois plus d'emplois que le reste des autres secteurs de l'économie. Donc on a une contradiction qui est assez forte dans cette décision de Donald Trump.
Et quelles conséquences directes ce retrait américain peut avoir pour le reste des pays signataires, des 194 autres pays ?
Clairement, la dynamique elle est enclenchée. C'est pas le fait qu'un État se retire de l'accord de Paris qui va changer cette dynamique. Il y a déjà 147 pays qui ont ratifié l'accord. On a passé le seuil minimum pour l'entrée en vigueur et on ne va pas revenir en arrière même si les États-Unis se retirent. Donc ça, c'est important de le savoir. Et la deuxième chose, c'est de bien comprendre qu'il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs. C'est pas uniquement les gouvernements, mais c'est aussi les entreprises, les citoyens, les villes, les États, notamment aux États-Unis, qui montrent que si les États-Unis ne sont pas prêts à continuer les efforts, eux vont reprendre cette mobilisation et faire en sorte que les objectifs qui étaient annoncés par les États-Unis soient remplis.
On reparlera de cette mobilisation, mais ce sont surtout les pays en développement qui seront le plus impactés par cette décision Donald Trump.
Clairement, parce que la décision de stopper les efforts des États-Unis, c'est une décision qui peut être combattue par un certain nombre d'acteurs internes ou extérieurs d'autres pays. En revanche, il y a une décision qui va prendre effet immédiatement, c'est celle de ne plus financer le Fonds vert pour le climat et les autres supports de financement qui avaient été prévus pour aider les pays en voie de développement à adopter des technologies propres ou à s'adapter au changement climatique.
Les États-Unis devaient reverser 3 milliards de dollars.
Oui,
dans les pays en développement.
Dans l'accord actuel, et n'en avait versé déjà qu'un milliard. Donc là, il y a une perte sèche de 2 milliards qui sera peut-être comblée par d'autres acteurs, mais ça reste à voir.
Et à titre de comparaison, la France a déjà mobilisé 3 milliards dès 2015. Lucille Dufour.
Oui, c'est une véritable insulte pour les populations les plus vulnérables parce que ça nie cette réalité-là. Là, il y a 10 jours, j'étais en Côte d'Ivoire. On a pu aller voir une communauté qui est affectée par l'érosion côtière. Donc on voit bien que les impacts, ils sont là. C'est des personnes qui ont besoin de soutien et qui ont besoin aussi de soutien financier pour faire face et mener le combat contre les impacts des changements climatiques. Maintenant, effectivement, cette absence de financement des États-Unis, il peut être comblé. Et c'est ce qu'on attend de la communauté internationale, qui ait plus d'ambition et qui ait une amplification des efforts de solidarité climatique. Ça peut être fait dès à présent, par exemple, au niveau de l'Union européenne, en mettant en place une taxe sur les transactions financières, dont la majorité des ressources pourraient être reversées à la solidarité climatique. Donc des solutions existent pour combler l'absence d'ambition des États-Unis sur ces questions.
Et quels programmes dans les pays en développement pour lutter contre les effets du changement climatique pourraient ne plus être financés ? Vous parlez de programmes pour lutter contre l'érosion côtière en Côte d'Ivoire. Quel type de programme risque de ne plus être financé ?
Alors, le Fonds vert, en fait, pour le climat, donc là où les États-Unis vont couper leur financement pour le moment, c'est un fonds qui permet de financer plusieurs types de programmes à part égale, des programmes pour aider les populations à s'adapter aux impacts des changements climatiques. Donc, ça peut être lutter contre l'érosion côtière ou mettre en place des pratiques agricoles qui soient plus adaptées aux impacts et aussi amorcer la transition énergétique et aider les populations à accéder à l'énergie, parce qu'aujourd'hui c'est encore un problème qui est énorme. Par exemple, en Afrique, il y a plus de 600 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité.
Quelle forme peut prendre ce retrait américain, Mireille Chirolleux-Assouline ? On pense que cette procédure va durer 3 ans avant que les États-Unis sortent véritablement de l'accord de Paris.
Ah oui, clairement, ce retrait ne peut prendre véritablement effet que le lendemain de l'élection du prochain président des États-Unis. Donc, d'une certaine façon, ça paraît totalement vain de dénoncer aujourd'hui l'accord de Paris pour le président des États-Unis. Mon opinion, c'est davantage qu'il voulait se dégager de ses obligations immédiates, qui étaient justement de financer.
J'aimerais revenir avec vous sur un chiffre. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris pourrait représenter une hausse des températures mondiales de 0,5 1,3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Alors ça, ce serait le scénario le plus noir, le plus négatif. Que pensez-vous de ce chiffre ?
Alors ça peut paraître peu, mais en fait c'est beaucoup. À l'heure actuelle, on a déjà dépassé les plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On sait qu'au-delà de 1,5 degré, les dommages, les catastrophes vont augmenter de manière exponentielle. Donc là, les États, notamment les petits États insulaires, les États en développement, lors des dernières négociations à Bonn, ont rappelé que rester sous la barre des 1,5 degrés, c'est littéralement une question de survie pour ces populations. Parce que ça veut dire une disparition des îles de territoires insulaires sous les eaux, ça veut dire des mouvements migratoires forcés, la disparition de cultures, de langues, des choses qui sont difficiles à quantifier, mais qui sont bien réelles. Et donc là, on parle vraiment de l'impact vraiment humain des changements climatiques. Donc ce petit changement, ces quelques degrés en plus, ça peut vraiment, vraiment avoir un impact irréversible.
Et se pose aussi bien sûr la question de l'exemplarité nationale. D'autres pays pourraient emboîter le pas aux États-Unis ?
C'est pas impossible. On peut penser à certains pays comme les pays producteurs de pétrole qui étaient très très réticents à signer l'accord et qui visiblement ont été convaincus par les qualités de diplomates des différents négociateurs. Il y a certains pays qui s'étaient retirés du protocole de Kyoto qui pourraient éventuellement, là aussi, revenir sur leurs décisions. C'est difficile pour l'instant, c'est difficile à prédire, puisque actuellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des pays qui aient pris position dans ce sens.
Et du côté de la Chine, qui est le premier pollueur de la planète, est-ce qu'on peut craindre un retour en arrière ?
Sur la Chine, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les décisions de la Chine et l'engagement de la Chine qui a eu lieu ces dernières années, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a aussi un énorme intérêt économique, en fait, dans la transition énergétique. La Chine, aujourd'hui, c'est le leader mondial dans les énergies renouvelables. Et bien sûr qu'il y a cet intérêt économique qui est là. D'ailleurs, Donald Trump ne l'a pas compris en prenant cette décision de sortir de l'accord de Paris. Donc finalement, on a ici une décision qui est pragmatique et qui n'est pas prise au hasard.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Quel avenir pour l'accord de Paris sur le climat après l'annonce du retrait américain ? La résistance s'organise en tout cas sur le territoire américain. Gouverneurs, maires prennent la parole et c'est le cas du maire de Pittsburgh, Bill Peduto.
Pittsburgh a vécu une longue période de crise durant les 30 dernières années. Nous avions un taux de chômage qui frôlait les 19%. Nous savons parfaitement ce que c'est d'avoir une économie en berne. Mais en même temps, nous n'investissons pas dans le passé. Nous investissons dans l'avenir. Nous sommes l'incarnation de ce que l'accord de Paris sur le climat peut apporter en termes d'emploi aux États-Unis. Et Donald Trump, qui cite Pittsburgh comme exemple, à mon avis, c'est un peu déplacé.
Quel pouvoir peuvent avoir les maires, les gouverneurs, bref, les autorités locales aux États-Unis ? Mireille Chirolo-Assouline.
Les États-Unis sont un État fédéral, donc les États ont potentiellement une grande autonomie. Certains l'ont montré, comme la Californie, qui a pris des mesures très novatrices et très progressistes depuis longtemps, et sous différents gouverneurs de différentes sensibilités. Les villes peuvent prendre un certain nombre de mesures de réglementation, par exemple, qui conduiraient à réduire les émissions. Je pense qu'il y a vraiment une autonomie possible.
C'est pour cette raison que c'est difficile d'évaluer aujourd'hui l'impact de cette décision de Donald Trump sur les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.
Ouais, effectivement, c'est difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la mobilisation, c'est pas uniquement les villes, les États. Il y a aussi de nombreuses entreprises du secteur privé, des investisseurs. Donc là, il y a un appel qui a été effectivement signé par plus de 1200 représentants, donc gouverneurs, maires, universitaires, entrepreneurs, et qui représentent 120 millions d'Américains, soit 6,2 trillions de dollars. Donc ce qui est assez énorme. Et leur objectif, c'était de dire ben voilà, les États-Unis se retirent, mais ça, c'est une décision de l'administration. Nous sommes les citoyens qui formons cette nation, ce pays, et il est hors de question qu'on laisse faire. Donc maintenant, il s'agit de voir comment ça va se mettre en place, quelles vont être les synergies entre ces différents acteurs et actrices, mais potentiellement, ça pourra compenser en tout cas une partie de l'inaction gouvernementale.
Et Donald Trump évoque la sauvegarde des emplois américains, mais selon le magazine Science et Avenir, près de 3 millions d'Américains travailleraient dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, alors que l'extraction du gaz et du pétrole emploierait seulement 177 000 personnes, et le charbon 50 000, bref, on est loin des emplois que peut générer la transition énergétique.
Et puis en fait, Trump prend le problème en contresens de l'histoire. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on aide ces industries du charbon, ces industries des énergies fossiles, à se reconvertir, à mettre en œuvre une transition qui permette aux personnes qui vont perdre leurs emplois de retrouver une situation économique qui soit vivable et stable au niveau des États-Unis, plutôt que d'essayer de maintenir artificiellement en vie un secteur de l'économie qui est un secteur du passé en réalité.
Mireille Achirolo-Assouline, on peut rester optimiste ?
Il faut rester optimiste d'abord parce que cette mobilisation de l'ensemble des acteurs peut tout à fait contredire l'effet initial du retrait des États-Unis. Ensuite, sur le plan politique aux États-Unis, il est vraisemblable que le président Trump va perdre assez rapidement toute capacité d'agir. Il y a des élections à mi-mandat avant les prochaines élections présidentielles. Donc, oui, je pense qu'il faut rester optimiste.
Et l'accord de Paris pourrait sortir grandi de cette affaire, de cette histoire ?
Alors, tout reste à voir, mais effectivement, on peut voir aussi le verre à moitié plein, pas seulement à moitié vide après le choc de la semaine dernière. On voit vraiment que la condamnation unanime de la communauté internationale a créé un espèce de mouvement qui avait été déjà relancé au moment du G7, qui potentiellement va aussi être relancé au moment du G20. Le climat est clairement à l'agenda de toutes les réunions internationales, et ça, c'est un gain formidable. C'était pas forcé que la dynamique reste après la COP21, mais maintenant que ce soit au G7, au G20, au niveau de l'OTAN, le climat reste une priorité. Donc on espère que ça ne va pas juste être une question de parole, mais aussi des actes concrets en termes d'exemplarité et en termes de mobilisation des financements vis-à-vis des pays qui sont les plus impactés.
Il faudra que d'autres pays financent les programmes qui veulent réduire les effets du changement climatique dans les pays en développement, à la place des États-Unis. Ça, on a quand même un problème de financement qui restera à résoudre.
Oui, alors c'est sûr, surtout que les États s'étaient accordés sur le fait de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour lutter contre les changements climatiques. On était encore très loin, on était à peine à 10 milliards. Donc avec ce retrait des États-Unis, on recule une fois de plus. Mais il faut espérer qu'il va y avoir donc une mobilisation au niveau financier, notamment pour soutenir, donc on parlait de ces programmes d'adaptation. Il y a des programmes qui marchent. CARE met en place sur le terrain notamment des programmes au Niger, dans la région de Maradi, où là on fait du travail d'adaptation communautaire, donc c'est-à-dire placer les populations au cœur de la solution. Donc concrètement, en leur permettant de collecter des informations sur les aléas climatiques pour qu'ils soient mieux préparés pour répondre et pour mettre en place des solutions. Donc par exemple, c'est introduire de nouvelles cultures, ou des cultures en tout cas qui soient plus résistante aux sécheresses, qui est plus de qualité nutritive et qui puisse se vendre aussi plus cher, notamment le manioc mais aussi le moringa. C'est aussi diversifié pour ces populations qui souvent reposent à plus de 80% sur la production agricole pour leurs revenus, de pouvoir aussi élever des ovins, des chèvres, pour ne pas dépendre que d'une seule source de revenus.
Et puis non seulement les solutions elles existent sur le terrain, mais les solutions de financement elles existent aussi du côté des pays riches et des pays développés. La France elle a pris des engagements en matière de financement climat. Elle a décidé de mobiliser d'ici à 2020 5 milliards d'euros par an et puis 1 milliard spécifiquement justement pour les projets d'adaptation dont parlait Fanny. Et puis il y a des sources aussi de financement qu'on appelle les sources innovantes et dont je parlais tout à l'heure qui sont des sources qui permettent de faire double emploi, par exemple de lutter contre la spéculation financière et aussi de réorienter des recettes vers la solidarité climatique. Et donc je pense à la taxe européenne sur les transactions financières. Ce genre de taxe, ça pourrait lever 22 milliards d'euros par an. Donc là, on comble clairement le gap qu'a créé les États-Unis sur ces questions-là. Donc les solutions, elles sont là. Maintenant, il faut les appliquer. C'est pour ça qu'on attend cette exemplarité des autres pays.
Merci à toutes les trois. Merci à vous, Lucille Dufour, du réseau Action Climat. Merci Mireille Chirolo-Assouline, professeure d'économie de l'environnement, et Fanny Petitbon de l'ONG CARE France. Merci d'être venue dans notre studio. Dans 3 minutes à peine, quelle transition énergétique dans les pays du Sud, alors que plus d'un milliard d'habitants de notre planète n'ont toujours pas accès à l'électricité, qui est pourtant vue comme le moteur du développement. À tout de suite.